Xiliang, qui donc Xiliang Zhu, donc qui est donc en thèse à l'université donc à l'université de Fudan en Chine et en co-tutelle donc avec l'université de PSL donc de Paris des Archives Boussole et de l'ENS et qui réalise un travail sur Ricoeur. Donc je vais vous laisser présenter votre sujet. Merci à vous, merci de votre présence. On vous écoute.
Vous m'entendez bien?
On vous entend très bien.
Ah, d'accord, très bien. Bonjour tout le monde et je remercie à Madame Nathalie Deprat d'organiser cette journée très brillante. Et c'est un grand plaisir de vous présenter plutôt la problématique de ma thèse. Donc je commence. Depuis la formule cogito ergo sum de Descartes, j'ai d'une part le droit me cultiver grâce au dualisme des substances de l'âme et la substance du corps. Mais d'autre part, je me trouve devant une aporie où la raison devient impuissante à défendre la rationalité du moi dans le processus de la connaissance. Cette aporie peut être abordée sous deux angles. Premièrement, le moi dans le processus de la connaissance est invisible. Deuxièmement, la conscience rend possible la conscience de moi, mais la découverte de l'inconscient accroît la complexité. Tout d'abord, le moi est en quelque sorte recelé ou caché, bien que toutes les pensées ne puissent pas échapper à un sujet pensant et vivant. Comment la pensée prend-elle et maintient-elle toujours garde du moi dans l'observation, la description, l'analyse et le jugement du monde hors de moi. Un exemple le plus remarquant qui pourrait servir de guide heuristique à ce caractère recelé du moi et oracle de Delphes. Connais-toi toi-même. Il est enrichissant dans la mesure où agent et l'objet de l'acte de connaissance sont le même toi. Et en d'autres termes, le sujet subit l'action en conduisant. Cependant, le caractère réflexif représenté par le pronom réfléchi, toi-même, distingue cet acte de connaissance du celui de l'objet hors de toi, car le toi ne se présente pas directement comme un objet ou un vis-à-vis pour le tu, en indiquant la distance visible entre le je et le moi. Cet oracle implique également la possibilité de que le moi soit saisi par le je et la glorification d'une telle connaissance. Plus précisément, lorsque nous parlons de connais-toi toi-même, nous excluons pas de la recherche de notre corps au sens de la science naturelle, à la troisième personne, mais aussi à la manière dont notre esprit se rapporte au monde réel, du point de vue de la première personne. C'est la première qui te garantit du fantasme de toi-même et c'est la dernière qui délivre le vécu distinct du domaine validé par les lois vérifiables et positives. Des énoncés scientifiques testables permettent d'expliquer la conscience en transformant en état mental, en état neural, et de comprendre l'action en mettant au jour des relations statistiquement entre la variable de l'environnement et les mesures du comportement. Tout cela donne lieu de croire qu'il soit inéluctable de développer une méthode spéciale en vue d'interpréter la place du moi dans le rapport entre la conscience de la et l'action, en gardant les éléments hétérogènes, dont le plus remarquant est un autre à l'égard de moi. Nous pouvons parler à bon droit du caractère réflexif et éthique du moi au lieu du caractère recelé, en raison de cette compréhension irréductible et non reproductible du moi, et du fait que la réflexion ne peut pas tirer un dialogue de son propre fond. Cette mise en accent sur le caractère réflexif et éthique du moi signifie un renoncement à adéquation à objet. dans la connaissance du moi et démasque une méthode qui constitue le sujet lui-même et creuser son sens éthique immanent autour de l'autre. Au-delà de ce caractère recelé ou des caractères réflexifs et éthiques dans la connaissance du moi, la conscience elle-même fait également obstacle à achèvement de connaître toi-même. Ce qui est le plus frappant est la rencontre de la psychanalyse qui met la conscience en question de manière générale et radicale. La théorie de Freud constitue un ébranlement considérable pour la prétention à se voir soi-même avec la raison. C'est comme Paul Ricoeur dit face à la contribution de Freud. La question de la conscience est aussi obscure que la question de l'inconscient. Cela signifie que se connaître soi-même est une tâche impossible. Contrairement aux études nihilistes de la conscience, la méthode d'analyse intentionnelle appliquée à la conscience, en particulier au secteur affectif et pratique de la conscience par Paul Ricoeur, nous trace un chemin vers la réalisation de connaître toi-même en respectant le caractère réflexif et éthique. Cette méthode d'analyse intentionnelle élaborée au niveau de la représentation dans Eden de Russell est maintenant transformée en faisant indiquer systématiquement les articulations des divers mouvements intentionnels de la volonté. Au cours de cette application de méthode, il prend la psychanalyse freudienne de front. Nous pouvons même dire que la psychanalyse soit une détresse incontournable et une alliée possible et l'aide à formuler ses problèmes. Sous aspect pratique, en tout cas, connaître toi-même n'est pas un problème auquel seul le philosophe se confronte. De quelle manière la possibilité à la nécessité de connaître toi-même se présente-t-elle dans la pratique? Tout d'abord, dans la vie quotidienne, le concept qui se souvent aligné sur le soi et identité. Il semble que c'est irréalisable de connaître toi-même sans considérer ton identité. L'identité ici se borne à nous permettre de reconnaître une personne et établir son individualisme. Individualité au regard des autres. Quant à la constitution de l'identité personnelle qui rentre depuis toujours des philosophes, existe-t-il une permanence du sujet à travers la multiplicité de ses expériences? Nous consacrerons ultérieurement une partie spéciale à cette question. En tant que moyen courant de marquer une personne, identité présente tout particularité essentielle. L'un est la fonction normative, l'autre est la manière simplifiée de se connaître soi-même ou être connu par les autres. Par exemple, je pourrais me décrire comme une étudiante chinoise. Cette description contient mon nationalité, mon âge, mon sexe et mon profession. Je possède en même temps d'autres identités dans différents contextes, afin de concrétiser l'identification du moi. Comme mes lieux familiaux, ma foi, ma race, etc., ces diverses identités nous dépeignent une image de moi-même et comptent sur le rôle demandé dans le domaine correspondant, tandis que le rôle que je joue reflète et maintient dans une certaine mesure les relations sociales internes et les normes imposées sur moi. Nous héritons des attributs et leur signification sociale à partir de notre naissance. Par suite de cette réception originelle des identités non choisies, nous normalisons notre propre comportement et les autres nous jugent d'un ton relativement ferme. Il est bon de noter que connaître ton identité n'équivaut pas à connaître toi-même. Une fois qu'une personne se rend compte que le soi créé par ses identités est plutôt une intersection des diverses catégories ou une convergence de la multiplicité des appartenances, Ordonnance de la nécessité de la connaître toi-même émergera. En particulier, lorsque certaines identités deviennent elles-mêmes moins valables, comme sa délimitation existante s'avère plus floue avec le temps et le sens incompatible caché sous la même identité, s'enlace dans la collision de la culture. Il semble que nous ne puissions pas empêcher de poser la nécessité de connaître toi-même en dégorant la stabilité de nos identités données. Ainsi, réfléchir à l'identité normative revient problématique à en délibérer le soi. Jusqu'à ici, nous pouvons constater que la possibilité à la nécessité de connaître toi-même dans la pratique réside en la clarification du sujet du soi dans le glissement de l'ensemble des identités cassées à en une nouvelle. Comment donc le soi remonte-t-il dans sa vie passée? Comment accepte-t-il ou rejette-t-il tout ce qui lui destine depuis sa naissance? Comment attribue-t-il un conflit avec l'autre qui est différent de lui? L'identité narrative de Hegel déplie une carte devant nous sur laquelle la question ci-dessus sont examinées de près en employant approche narrative. Loin de se figer dans un noir dur, le soi se relève par intermédiaire de sa capacité de mettre en récit de manière concordante les éléments de son existence. Hegel propose l'hypothèse suivante. La compréhension que nous avons de nous-mêmes est une compréhension narrative, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous saisir nous-mêmes hors du temps et donc hors du récit. Des trois termes de temps et récit à soi-même comme en autre. Identité narrative est un thème dominant dans la pensée de Hegel. En tant qu'une contribution importante à la philosophie sujet. Identité narrative prend le passé comme un espace d'expérience riche de possibilités et le fait fonctionner avec le présent. Au-delà de cette perspective vers la temporalité, l'identité narrative met également en lumière le mystère du langage. Le langage, soit celui écrit, soit celui parlé, est toujours associé à la mémoire et à l'imagination. Cela détermine le fait qu'existe un monde qui dépasse un texte et qui est dernière du parole. De ce fait, le soi raconté au fil du temps est exactement une identité provisoire qui lui partage la même expérience vécue. C'est la temporalité marquante et le langage saillant dans l'identité narrative qui déclenche la reprise de la psychanalyse freudienne à nouveau. Hegel écrit « Nous parons reprendre l'œuvre théorique de Freud du point de vue de ses implications temporelles. On verrait que le thème de l'antérieur est sa propre hantise. Concernant le langage, Hegel constate expérience analytique est possible à condition de supposer que affectivité profonde que Freud appelle libido n'est pas étrangère du langage. Ceci est très important pour introduire l'élément narratif qui est un élément langagière. En somme, si la question connaître toi-même est si importante, ce n'est pas seulement pour les raisons théoriques, c'est aussi pour les raisons pratiques. Enfin, de nous donner une identité subjective qui fera de nous des agents autonomes ou libres. Grâce à l'introduction de la théorie psychanalytique de Freud, particulièrement en trois points, l'inconscient, la temporalité et le langage dans l'identité narrative consciente proposée par Hegel, nous avons un choix raisonné interne face aux soupçons ou à la négation de la valeur individuelle. C'est le moment favorable d'énoncer l'idée principale de cette thèse. Après avoir éclairé la problématique, le problème qui sera discuté dans cette thèse appartient à la philosophie du sujet, et plus précisément est axé sur la manière de conscience de soi. Dans la problématique, nous avons déjà parlé de la possibilité et la nécessité de se connaître de soi-même qui se trouve dans le va-et-vient permanent entre décomposition et reconstruction du soi, sous effet du conflit avec le passé donné et la collision avec l'autre opposante. Tout cela ne peut se former que par la conscience de soi. De ce fait, dans la première partie de cette thèse, nous nous concentrons sur le voie de la conscience chez Rigor qui a été constituée dans le cadre de philosophie de la réflexion, de la phénoménologie et de herméneutique. La motivation de ce retour est d'éclusser comment l'inconscient entre la conscience de soi, en d'autres termes, comme élément exclu du processus de connaissance du monde physique, tels que les désirs, le motif, l'habitude, l'émotion, etc., sont-ils restitués dans la conscience de soi? Si la première partie s'inscrit plutôt dans la tradition philosophique de Rigor, les deux parties suivantes tournent autour de la rencontre avec le conscient dans psychanalyse freudienne. D'une insiste sur la temporalité, l'autre met accent sur le langage. La dernière partie revient sur la philosophie du sujet de Rigor, à savoir identité narrative. Et merci beaucoup pour votre attention.
You are now unmuted. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Siliang. C'est très bien. Voilà, ça me permet vraiment de bien voir comment vous avancez, où vous en êtes. Vous avez fait une présentation qui restitue vraiment bien les différentes étapes de votre projet et également la problématique générale dans laquelle vous vous situez. La relation avec la psychanalyse freudienne est une relation qui est évidemment essentielle chez Rigor, mais dont on n'a pas forcément exploré les différents attendus et la manière dont il se... dont il, comment dire, non, comment il s'appuie sur Freud. Ça remet en scène évidemment tout un débat très constitutif de la phénoménologie sur la philosophie du sujet conscient par rapport à des mécanismes inconscients qui se produisent à l'insu du sujet. Donc évidemment, dans une des lignes de fracture, mais que justement la philosophie de Rigor permet de repenser autrement avec beaucoup de finesse et de différenciation. Et donc je trouve que c'est vraiment très, très bien, et j'ai beaucoup aimé le point de départ et la reprise régulière en fait de l'adage socratique qui permet d'avoir une sorte de boussole autour de laquelle vous faites graviter les points de rencontre et de mise à l'épreuve en fait, hein, qui sont justement reliés à l'autre, au tu, mais aussi aux normes sociales, à la construction du sujet dans l'espace plus large culturel. Et donc je pense que là on a toute une série de pistes extrêmement intéressantes. Peut-être juste une question pour commencer, puis peut-être pour ensuite donner la parole à vos camarades. Comment dire, il me semble que justement concernant le rôle que vous cherchez à faire ressortir concernant l'apport de Freud l'évolution de la pensée de Rigor, vous l'avez bien mentionné en termes de rapport au temps et de rapport au langage. Donc on voit bien effectivement que c'est sur ces deux axes que Rigor va aller puiser des ressources pour repenser le sujet, pour repenser le soi. La question que je me suis posée, c'est finalement, si on comprend bien que effectivement la psychanalyse freudienne, dans la dynamique même finalement de l'explicitation qui est proposée dans la pratique, hein, dans la cure analytique, met en scène une temporalité et un rapport au langage qui amplifie le soi, qui lui donne une étoffe beaucoup plus conséquente. La question qui restait un petit peu peut-être à articuler, c'est comment ça se relie à ce que Rigor va forger en termes justement de primat de la narration, de la fiction, et comment La narration ou la fiction elle-même enrichit en fait le réel, enrichit l'expérience. Hein, c'est des thèses qu'on trouve dans, dans Temps et Récits notamment. Et dans ce paysage-là, comment se situe finalement la psychanalyse freudienne? Le lien entre la narrativité qui met en scène plutôt un espace fictionnel et ce que la psychanalyse freudienne nous propose, qui est plutôt, enfin, qui ne met pas en scène du tout la dimension fictionnelle ou l'ouverture des possibles, mais qui va plutôt mettre en évidence une sorte de logique d'un autre ordre, qui serait plutôt la logique onirique, la logique de la cohérence incohérente, enfin une logique plus du chaos, des déformations en fait de la temporalité. Donc la question que je me posais, c'est finalement comment les deux sont reliés. Est-ce que les deux sont vraiment reliés chez Ricoeur? Donc une logique narrative qui est la logique de la fiction, de l'ouverture des possibles, et qui enrichit le réel pour Ricoeur dans sa théorie de la narrativité. Et d'un autre côté, chez Freud, l'apport de Freud met dans finalement une conception du soi ou de la conscience qui va être ressaisie plutôt à partir d'une logique qui n'est pas une logique fictionnelle, qui est plutôt une logique, la logique même du rêve. Donc, est-ce qu'on n'a pas affaire à deux formes de temporalité? Comment ces deux temporalités peuvent se relier? Est-ce qu'elles le sont vraiment chez Ricoeur? Voilà, c'est la question que je me suis posée en vous écoutant, parce que vous avez mentionné les deux, mais je me demandais comment vous les articuliez, ou comment elles sont même articulées d'ailleurs chez Ricoeur, est-ce qu'elles le sont véritablement? Ou est-ce que ça répond à des moments différents de son parcours, de son élaboration?
Merci beaucoup pour votre question. Et c'est très intéressant et très... c'est dans un jeu pour... Pour moi, traiter le lien entre Ricoeur et Freud, c'est sur fiction et ou logique dans thérapie, peut-être. Mm-hmm. Je pense, pour l'instant, j'ai deux idées pour répondre à cette question. La première, c'est imagination, imagination qui est liée ou qui est liée à la frontière de frontière ou frontière de la distinction entre fiction et fiction ou un récit factuel. Oui, peut-être c'est dans un moment où je vais traiter et plus préciser dans ma thèse pour éclairer le lien entre les deux.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ce terme d'imagination, en plus, il est essentiel chez Ricoeur. Il est très présent dans la philosophie de Ricoeur, et ça pourrait être un terme charnière, effectivement, pour articuler le registre de la narration ou de la fiction et le registre du rêve, hein, puisque dans les deux cas, il y a des productions d'images. C'est vrai. Il y a une production d'images dans les deux cas. Bien sûr, ces images ne vont pas forcément être du même ordre, enfin, dans un cas et dans l'autre, et le rapport au temps va être aussi différent. Donc ça peut être un bon moyen. Oui, Elsa, vous aviez une question.
Oui, une question vraiment simple. En fait, ça me fait penser, j'ai beaucoup aimé votre présentation, ça rejoint vraiment mon travail de thèse, que je m'intéresse beaucoup à l'identité, et Ricoeur, c'est un auteur vraiment très important, et ça m'a fait penser un peu au concept de représentance, en fait, chez Ricoeur, on essaye de... Enfin, il nous dit qu'à un moment, il y a un passage entre l'histoire qu'on raconte, le fait, et la réalité qui est un peu brouillée. Je me demandais si il y avait une solution. Est-ce qu'on sait à quel moment dans notre récit narratif on dépasse le récit factuel pour aller vers la fiction? Est-ce qu'il y a une prise de conscience de ça ou pas du tout?
Pour moi, selon moi, Ricoeur essayait de essayer de tirer un essentiel de différents genres genre de narration, comme l'histoire, comme fiction ou roman, y compris tragique ou comédie, comme ça, mais pour très essentiel de narration pour. Et je pense que. J'ai pas une réponse plus claire, mais ça me fait penser que la narration plutôt une méthode de connaître le monde ou se connaître. De ce fait, la distinction, c'est plutôt un objet on réfléchit autour, mais c'est pas un critère fixé. Oui. Merci beaucoup.
You are now unmuted.
Je ne sais pas si vous m'entendez,
Oui. Oh,
j'étais
ouais.
You are
en train
now.
de penser qu'un des liens qui est rarement fait entre fonctionnement de la psychanalyse freudienne et certaines thèses de Ricoeur, c'est la question de la métaphore, puisque Ricoeur a un livre important sur la question et que en psychanalyse, l'association libre sur le divan procède à son auto-analyse ou bien les associations qui ont lieu dans les rêves sont des fonctionnements métaphoriques et ces fonctionnements ont un grand rôle dans la thérapie puisque sont des opérateurs de changement et les métaphores aujourd'hui sont extrêmement utiliser et analyser dans le domaine de l'hypnose. Et je pensais à un livre de François Roustan qui s'appelle Les secrets de Socrate pour changer la vie. C'est un livre qui est paru chez Odile Jacob. Il y a vraiment un regroupement important du fonctionnement socratique par rapport à l'idée. Changement et par rapport à l'idée d'hypnose, de transformation de la personne, avec une grande critique assez bien documentée philosophique, enfin, du point de vue textuel et archéologique, sur la question du connais-toi toi-même. Je peux mettre un lien.
Oui. Madame Nathalie a déjà écrit le.
J'écris le. J'écris le nom de simplement de l'auteur, mais si tu as un lien, Alex, effectivement, ça peut être utile aussi à Siliang et à tout le monde d'ailleurs, si tu as le lien.
Et donc, je ne sais pas, vous, Siliang, si vous avez approché ce livre sur la métaphore vive.
Ah oui, déjà, oui. Merci beaucoup. Et peut-être que je peux ajouter quelque chose à ce sujet. C'est sur la métaphore, sur la métaphore, non, pas métaphore, c'est sur la méthode. En fait, Rigor a écrit que la façon il traite la psychanalyse. Il y a de conflits et controverses entre Rigor et les psychanalystes après Freud parce que Rigor n'a pas traité en considéré l'expérimente psychanalyste dans sa pensée. Du coup, c'est une occasion pour
C'est une occasion pour traiter la distance ou distance pour respecter les points de vue dans le conflit, peut-être. Merci beaucoup pour votre recommandation.
Très bien, très bien. Merci, merci Siliang. Voilà, je pense qu'on a un travail prometteur qui est bien parti.
Bonjour madame,
Ah,
pas encore activité
oui, pardon, ça recommence. Donc je disais que vous avez un travail qui est très prometteur et je me réjouis vraiment de continuer à explorer à explorer ces différentes mises en relation que vous avez déjà bien construites avec la psychanalyse. Et je pense que ça va donner un travail aussi en lien avec avec Olivier Abel et le travail que vous faites aussi dans le au fond Ricoeur, hein, donc ça c'est vraiment très bien aussi. Donc bravo.
Merci.
Donc nous allons nous arrêter. Alors je crois que Jean-Luc, attendez, je vais couper l'enregistrement.